le mot précis. De la même façon, quand je regarde mes textes, je dirais, tardifs, médiévaux de la Renaissance, et que j'essaye de faire une recherche de sources, qui est quand même une des tâches essentielles de l'historien des textes, il arrive assez régulièrement qu'un texte entier, notamment à la Renaissance, se décompose en une sorte de mosaïque de textes antérieurs, dont la réunion fait un sens nouveau. Mais c'est la réunion qui fait un sens nouveau, pas le texte lui-même, dont tous les morceaux donc, sont empruntés à des choses antérieures. C'est vrai, par exemple, chez des gens aussi, puisqu'on en a parlé, aussi sérieux qu'Aldrovandi, mais ce serait vrai chez Fouché, chez Mathiol, chez tous les grands naturalistes de cette époque. Alors, ces exemples, ces allusions, en tout cas, me conduisent à une observation sur laquelle je vais fonder mon exposé tout entier. Et c'est la suivante, les textes médicaux, comme c'est d'ailleurs le cas pour la plupart des champs disciplinaires techniques, je crois que le principe vaudrait pour d'autres, supposent une organisation des textes selon des principes d'autorité. Je veux dire par là qu'un auteur dont on utilise les œuvres dans un champ technique donné se voit investi d'une forme d'autorité qui rend son nom bien connu et son œuvre emblématique. Cette autorité ne doit pas être entendue comme quantitative, on n'a pas plus d'autorité qu'un autre auteur, mais sur un mode qualitatif, une œuvre ou un auteur n'a pas plus ou moins d'autorité, mais on ne peut pas parler de chirurgie sans évoquer un certain nombre d'auteurs grecs, ni de matière médicale sans évoquer Dioscorie. Donc c'est bien sur le terrain qualitatif qu'il faut poser les choses, me semble-t-il. Je vais donc commencer par faire une sorte de rapide panorama de cette littérature pseudépigraphique médicale de l'Antiquité. Et comme cette littérature n'est tout de même pas la mieux connue, me semble-t-il, je vais commencer par dire ce qu'on y trouve. Je vais essayer de montrer dans un second temps, sur deux exemples uniquement, quel rapport ces œuvres non authentiques entretiennent avec les œuvres des auteurs dont elles se réclament, avant de dire deux mots de leur transmission donc, et de leur réception pour mesurer leur audience jusqu'à la Renaissance. Ce sera donc cheminement que je vous propose. Alors, pour commencer, je voudrais renvoyer à un très joli texte de Cassiodore, qui est cité par tous les historiens de la médecine, de la botanique, des sciences, parce qu'il est vraiment essentiel, et qu'à mon tour, je vais vous donner. Voilà ce que dit Cassiodore en version française. « Apprenez donc la nature des herbes et étudiez diligemment les façons d'en combiner les diverses espèces. » Et si vous ne savez lire le grec, lisez surtout les traductions de l'herbarium de Dioscoride, qui a décrit et dessiné les herbes de ses champs avec une merveilleuse exactitude. Tous les mots sont importants. Après cela, lisez les traductions d'Hippocrate et de Galien, en particulier la thérapeutique, et le De Medicina d'Aurelius Celsus et le De Herbis et Curis d'Hippocrate, et divers autres livres sur l'art de la médecine que, avec l'aide de Dieu, j'ai pu me procurer pour vous dans notre bibliothèque. Voilà ce que dit donc Cassiodore. Dans ce texte fréquemment cité, il y a à peu près tout, et suffisamment en tout cas pour que j'en fasse le point de départ de mon exposé. Je vous propose donc d'examiner la liste d'auteurs de Cassiodore avec un tout petit peu plus de précision. L'herbarium en latin de Dioscoride, c'est un texte presque complètement authentique. Donc, il s'agit du De Materia Medica, composé par le médecin grec Dioscoride au 1er siècle de notre ère. C'est un texte qui est exactement contemporain de l'histoire naturelle de Pline l'Ancien. Le texte constitue ce qu'on appelle une matière médicale, c'est-à-dire un ensemble de plantes, d'animaux, de minéraux, utilisés d'une façon simple ou composée, mais en l'occurrence plutôt simple, dans la pharmacopée traditionnelle. Je dis que le texte est presque complètement authentique parce que si les cinq premiers livres le sont, en dépit d'une tradition textuelle extrêmement compliquée sur laquelle je vais revenir dans une seconde, le sixième, qui est un traité sur les poisons, est manifestement apocryphe. Les traductions d'Hippocrate et de Galien, dont il est question dans le corpus de Cassiodore tel qu'il apparaît dans cette citation, ne posent pas non plus de problème particulier. L'œuvre d'Hippocrate ou celle du médecin Galien ont fait l'objet très tôt de traductions latines Et en marge de travaux très savants sur les traditions galéniques et hippocratiques sur lesquelles il y a des bibliographies que je qualifierais de kilométriques, je vous renvoie pour un exposé d'ensemble très rapide aux textes que Véronique Boudon d'un côté, Marie-Laure Montfort de l'autre, ont donné en introduction aux textes numérisés dans le cadre de la Bibliotheca Medica que vous trouvez sur le site de la BIUM, donc à Paris. Et c'est, je crois, de bonnes introductions qui peuvent aider. Avec le De herbis et curis, les choses se gâtent, parce que pour tout vous dire, on commence à rentrer dans des dénominations un tout petit peu floues et dans les nombreux pseudépigraphes qui sont attachés au corpus hippocratique. Il y en a des centaines, je dirais. Il y en a presque autant rattachés à l'œuvre de Galien. D'ailleurs, si on ouvre les catalogues des manuscrits, ou mieux encore, mais c'est un exercice assez cruel, les anciens inventaires des bibliothèques médiévales, pour avoir une idée un peu plus précise de la réalité de la tradition textuelle qui fonde le savoir médical, tous les autres livres assemblés par Cassiodore dans la bibliothèque, la situation se complique assez nettement. À côté des textes bien connus de l'Antiquité, du corpus hippocratique et galénique ou aristotélicien, présentés sous une forme complète ou fragmentaire, on va trouver des quantités d'autres petits textes. Certains ne sont même pas identifiés ou pas attribués. D'autres sont ce que j'appelle des textes adoptés. Ce sont des textes dont les catalogues nous disent qu'ils sont d'un auteur célèbre, alors que nous savons bien que c'est inexact. Et c'est de quelques-uns d'entre eux que je vais vous parler aujourd'hui. Ces textes peuvent être rapportés à un auteur particulier, de préférence célèbre, de préférence à l'autorité incontestable, mais ils peuvent être aussi partiellement anonymes, au sens où certains catalogues donnent un nom d'auteur et d'autres rien du tout. C'est-à-dire que ces textes, pour les repérer, on n'a pas beaucoup d'autres solutions pour être sûr de les avoir que de passer par un instrument particulier que les historiens des textes utilisent sans modération, qui est l'incipitaire, parce qu'un texte médiéval, on le repère d'abord, un texte antique transmis par le Moyen-Âge, c'est les premiers mots, indépendamment du titre et de l'auteur, qui sont quand même assez rarement donnés dans les traditions textuelles. J'ouvre juste une parenthèse en forme de digression pour dire que quelquefois on a des surprises qui vont aller très très loin, puisque j'ai trouvé un jour un Deophikis de Cicéron, qui n'est pas un texte médical du tout, mais philosophique, sous l'appellation traité des quatre vertus cardinales, qui pour moi devait renvoyer plutôt à Sénèque. Donc vous voyez, on peut trouver des choses assez, assez troublantes. Ces catalogues anciens des bibliothèques médiévales ne sont pas prolixes, ils ne sont pas non plus systématiques, en tout cas beaucoup moins que les nôtres. La désignation des textes est assez variable et il faut se représenter finalement ces textes pseudépigraphes comme une sorte de Bernard l'ermite qui adopte la coquille d'un autre animal ou un coucou qui adopte le nid d'un autre oiseau, quelque chose comme ça. Ces textes sont de vrais textes, ils ont une véritable utilité, une véritable histoire, mais ils sont connus par le relais d'un autre auteur qu'ils ont adopté ou qui les a adoptés, comme vous voulez. J'ajoute que dans beaucoup de cas, le doute n'est pas permis. Hein. Quand je parle de textes pseudépigraphes, ce sont des textes pour lesquels il est certain que l'auteur allégué ne peut pas les avoir écrits. Alors, pour régler tout de suite une question qui a une certaine importance, je dois ajouter tout de suite que ce phénomène ne concerne pas que la littérature médicale, loin s'en faut. Hein. On en trouve dans tous les champs littéraires ou techniques, y compris dans la littérature historique ou même en pathologie. Alors je vous donne un exemple et un seul parce que c'est celui sur lequel l'une de mes jeunes collègues est en train de sécher. Il s'agit d'un texte de Prosper d'Aquitaine, donc c'est un texte qui appartient à la catégorie de texte patristique, le De Vocatione Gentium, fréquemment présenté comme un pseudo Saint-Ambroise. Voilà. Donc il faut aller chercher pour démêler ce qui est de l'ordre du pseudépigraphe et ce qui est de l'ordre du texte authentique. La conséquence, donc, c'est que le chercheur doit évidemment être très prudent dans sa façon d'appréhender ces textes. Pour la matière médicale, on en connaît beaucoup, et si vous permettez, je vais essayer de procéder non pas avec une liste qui n'aurait pas beaucoup de sens, mais en essayant de les rattacher tout de suite à l'auteur ancien dont ils prétendent finalement développer la pensée. Alors, le premier auteur ancien que je vais mentionner, c'est évidemment Pline, parce que Pline l'Ancien, donc l'amiral de la flotte de Misène, l'auteur de l'encyclopédie qu'est l'Historia Naturalis, dans lequel on ne trouve pas que de la médecine, hein, mais aussi de la géographie, de l'anthropologie, de la minéralogie, de l'histoire de l'art, tout ce que vous voulez. Le texte a circulé sans solution de continuité depuis l'Antiquité, et un texte qu'on ne perd pas est un texte qu'on peut réaménager très facilement. On le perd si peu qu'on dispose par exemple de lettres écrites par Simac au poète Ozone de Bordeaux, qui lui demandait un manuscrit de l'histoire naturelle de Pline Ancien. Et Simac lui répond qu'il a eu du mal à en trouver un, certes, il y en avait un en réalité, que ce manuscrit, il le voit bien, n'est pas très bon au sens où il est bourré de fautes, mais qu'il préfère le lui envoyer parce qu'il vaut mieux un mauvais témoin que pas de témoin du tout. Pline constitue donc une des sources antiques principales pour tous les sujets qui ressortissent de près ou de loin la description du monde. Il n'est donc pas étonnant qu'on trouve à la fin de l'Antiquité un pseudo-Pline, et même plusieurs. Disposé en trois livres, ce texte couramment désigné sous le titre de Medicina Plini, médecine de Pline ancien, traite d'abord des maladies du corps humain, puis des maladies qu'on ne peut pas rattacher à une partie précise du corps, en particulier les fièvres par exemple. L'ordre de l'exposé, au moins pour les deux premiers livres, se fait depuis la tête jusqu'aux pieds, ce qui est un arrangement particulier qui est assez fréquent dans les textes médicaux, mais qui n'est pas plinien du tout. Pline ne procède pas du tout de cette façon-là. C'est là une constante de ces pseudépigraphes. S'ils ne sont pas imputables à l'auteur ancien qu'ils prétendent adopter, ils se présentent souvent comme des compilations, des arrangements d'une matière plus ancienne, et c'est bien le cas pour la Medicina Plinii. Et j'ajoute qu'il arrive quand même que, aussi que la matière arrangée provienne d'un autre auteur que celui auquel le pseudépigraphe prétend se rattacher, ce qui ne simplifie pas évidemment l'affaire. Alors, la Medicina Plini, justement, puisque je parle de ces auteurs, ces compilations multiples, connaît un deuxième arrangement. Donc, on a un premier arrangement tardo-antique qui reprend des morceaux de l'histoire naturelle de Pline pour les réarranger et réorganiser selon une organisation proprement médicale. Et puis, un deuxième arrangement qui va ajouter aux trois livres de la Medicina Plini deux autres livres qui, cette fois-ci, ne proviennent pas du tout de Pline ancien, mais ce sont des traductions latines d'un auteur grec qui est Alexandre de Trale. Nous voilà donc avec une Physica Plini, cette fois-ci, au tournant du 5e et du 6e siècle, qui vous transmet à la fois Pline et Alexandre de Trale, sous le nom de Pline, bien sûr, et qui va être utilisée par des auteurs aussi importants, par exemple, qu'Isidore de Séville. Donc on est vraiment dans des textes essentiel. Ce texte circule un peu partout, un peu tout le temps. Il a la vie assez dure. Il est peu fréquent à la Renaissance. Donc manifestement, là, pour le coup, chose qui change. Un autre des pseudos les plus connus, c'est celui du pseudo Apulée. Alors là, j'ai de très belles images à vous montrer. Ce pseudo Apulé, évidemment, n'a rien à voir avec l'auteur Apulé, le véritable Apulé ancien, l'auteur de l'Andor. Il s'agit juste d'un herbier avec environ 131 plantes pour lesquelles on dispose d'un ensemble nomenclatural qui est associé à des utilisations thérapeutiques. C'est un texte fréquemment illustré, d'où les très belles images que vous allez voir, et qui constitue souvent la base de ce qu'on dénomme souvent dans les catalogues anciens des bibliothèques, un herbarius. Dans deux cas sur trois, l'herbarius, c'est un pseudo-apulé. Sa source principale, c'est évidemment l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, mais pas seulement. Autrement dit, voilà un autre avatar, si j'ose dire, de l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, sous la forme d'un herbier. Alors, cet herbier du pseudo-apulé m'intéresse aussi pour d'autres raisons. D'abord parce qu'il s'agit du premier herbier médical qui est passé à l'imprimerie en 1481. Et l'éditeur italien qui a travaillé sur ce texte, qui a donné une très belle reproduction, un très beau facsimilé en Italie, signale aussi que c'est le premier herbier italien imprimé donc en 1522. Si je passe maintenant au médecin grec Dioscoride, cité par Cassiodore, donc je reviendrai sur le pseudo Apulée tout à l'heure. voilà par exemple un manuscrit de Dioscoride. Il faut que je précise un petit peu les choses. Dioscoride circule depuis l'Antiquité, mais la difficulté avec Dioscoride, c'est qu'il circule au moins sous quatre formes différentes. Et que les manuscrits les plus anciens ne sont pas la forme originale du texte. Si bien que quand le texte est transmis au Moyen-Âge, on a non seulement des pseudo-Dioscorides, mais on a même du Dioscoride original qui ne se laisse pas reconnaître comme ça, parce que vous avez une version qui est la version organisée en discours par Dioscoride en grec, mais vous avez eu aussi plusieurs traductions latines et plusieurs réorganisations alphabétiques du texte authentique de Dioscoride avant d'arriver aux pseudos eux-mêmes. Du côté des pseudépigraphes, j'en vois au moins deux. Donc, j'ai signalé tout à l'heure le traité sur les poisons, qui est le livre 6 de Dioscoride, mais il y en a un autre qui est un De Herbis Femininis, donc qui concerne les herbes utilisées en gynécologie. Ce second texte circule assez largement pendant toute la période médiévale. Il est intégré dans les éditions de médecins antiques à l'intérieur des recueils. Et là encore, le texte procède d'un réarrangement de la matière ancienne de Dioscoride, avec quelques ajouts qui proviennent d'autres sources, lesquelles ne sont pas nécessairement identifiées. Et c'est extrêmement difficile d'aller à la pêche aux sources dans ce cas-là. Je vous ai parlé tout à l'heure du traité sur les venins. Je voudrais ajouter que s'il est incontestablement apocryphe, il a aussi été beaucoup utilisé, puisque à ma connaissance, les premières éditions imprimées l'intègrent sans sourciller, et que ce d'épigraphe dioscoridien sur les poisons se trouve une des sources d'un encyclopédiste aussi important pour le Moyen-Âge que Barthélemy l'Anglais. Si je passe maintenant à Galien et aux autres médecins grecs, je vais également trouver des quantités de textes pseudépigraphes, puisque Galien est bien prévisible et couramment adopté par ces textes. Alors, on a comme ça un Alphabetum Galieni, qui n'est évidemment pas du tout de Galien, qui est un traité de matière médicale, qui comporte environ 300 plantes, bon, qui ont quand même le bon goût d'être empruntées effectivement à des médecins grecs, plutôt qu'à Pline l'Ancien directement. Il s'agit d'un texte qui date du 5e ou du 6e siècle. Toujours au titre du pseudo-galien, je compte un De Urinis, qui est un traité d'uroscopie, hein, une spécialité très importante pour la médecine ancienne, qui dérive de sources grecques, incontestablement, mais pas de galien, justement. On trouverait également une Epistula de Febribus, une lettre sur les fièvres, qui remonte à peu près à la même époque que l'alphabetum, que la liste des plantes, mais qui n'a pas nécessairement de rapport avec l'alphabet. Hippocrate, Héliodore, Oribas pour les Grecs ont également leurs correspondants dans la littérature pseudépigraphique médicale. Alors, si j'essaye maintenant de tirer des conclusions de ce premier tour d'horizon, pour ne pas vous infliger des listes qui pourraient être extrêmement longues, il faut compter les pseudépigraphes, je pense, plutôt en centaines que simplement en dizaines. Tout d'abord, je remarque que ces pseudépigraphes sont très fréquemment tardo-antiques. La plupart d'entre eux s'inscrivent dans une période qui va du 3e au 7e siècle. On trouve bien entendu des exemples qui vont contredire cette première remarque. Alors, j'en ai un à préciser tout de suite, qui est le pseudo-Aristote d'Eplantis, dont je parlerai beaucoup plus longuement tout à l'heure, et qui est plus ancien, qui remonte au 1er siècle. Mais j'en ai aussi de beaucoup plus récents, puisqu'on continue, par exemple, avec un pseudo-Macère, qui, lui, remonte au 11e siècle. Alors, Macère, du nom de ce personnage qui est attesté par la correspondance de Pline le Jeune, bien entendu, mais qui n'a rien à voir, puisque le texte du pseudo-Macère cite Valafrid Strabon, et que Valafrid Strabon ne datait que de très peu de temps avant. Donc, forcément, on n'est pas dans un texte antique. Pour la période médiévale, et toujours en restreignant au champ scientifique, je remarque que des pseudo-bèdes, par exemple, sur la naissance des enfants, toujours dans le champ de la médecine. Autrement dit, cette technique du pseudo, du texte pseudépigraphe, semble avoir, je dirais, la vie assez dure et être assez répandue, au moins jusqu'à la fin du Moyen-Âge, je dirais, jusqu'à la période classique du Moyen-Âge. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas avant le 3e siècle? Je pense que c'est assez bête, hein, c'est parce qu'on a moins de sources, tout simplement, que si on avait autant de sources pour la période antérieure, on en trouverait évidemment beaucoup plus. Une deuxième observation, c'est qu'un pseudo peut en cacher un autre. Donc, j'ai évoqué la Medicina Plini en montrant que les remaniements successifs du texte signifient à la fois l'autorité de Pline l'Ancien et la diffusion du pseudo. Mais on a un des cas encore plus étonnant. Alors, je vais revenir à cette occasion sur le pseudo-Macère, justement, qui date du XIe siècle, incontestablement, et dont les premiers manuscrits datent du XIIe siècle. Sur le plan, est-ce que j'en ai un, ma sœur à vous montrer, oui j'en ai un, ça c'est une édition ancienne, et puis j'ai aussi un manuscrit, je ne suis pas tout à fait convaincue par... Enfin, moi, je vous expliquerai pourquoi après. Donc, c'est un herbier en hexamètre dactylique. Et moi, qui n'ai jamais eu une passion folle pour la scansion latine, je dois dire, ils sont faux, presque tous. Donc, c'est mauvais hexamètre dactylique. Ça procède majoritairement d'une compilation de Pline, avec des emprunts également à Dioscoride et à des auteurs ultérieurs. Et c'est un texte qui a servi de polycopier dans les facultés de médecine parce que sa forme versifiée, ça c'est une constante de la médecine ancienne, on le dit couramment, facilitait la mémorisation des plantes et de leurs propriétés. Donc c'est pour ça que c'est en vers. Ce pseudomasseur est utilisé jusque dans les années 1530, mais après on n'en a plus besoin parce que la Renaissance a publié d'autres textes qui font autorité, et en particulier les très beaux herbiers de la Renaissance qui constituent, si vous voulez, une sorte de stade ultérieur de la production de textes médicaux et naturalistes. Donc on n'en a plus besoin, mais un pseudo peut en cacher un autre, parce qu'avant qu'on n'en ait plus besoin et qu'on y renonce dans les années 1530, en 1519 en Espagne, on avait publié un autre texte qui s'appelait Pseudomasser, De virtutibus herbarum, exactement comme le masser, le premier pseudomasser, sauf que ce n'est pas le même, c'est un autre encore. Autrement dit, voilà un pseudomasser qui se réclame du pseudo-masser plus ancien, lequel était déjà un texte pseudépigraphe. Autrement dit, indépendamment du côté un tout petit peu amusant de la chose, quand on tombe sur le texte et qu'on se dit « c'est pas possible, ils se sont trompés, ils n'ont pas numérisé le bon texte » ou « c'est pas ça », c'est l'idée que quand on va chercher, je dirais, une autorité en matière médicale à retenir, alors on peut aller la chercher, y compris chez des textes pseudépigraphes qui, du coup, acquièrent un statut très particuliers, puisqu'ils deviennent eux-mêmes, je dirais, adoptables par d'autres textes. Ma troisième observation, c'est que ces textes, quels qu'ils soient, antiques ou pas, procèdent tous de ce que je vais appeler, parce que je pratique la littérature de la Renaissance couramment, ils procèdent tous du genre du commentaire. C'est-à-dire que si on définit, au fond, le genre du commentaire au sens large, à époque ancienne depuis l'Antiquité, comme un ensemble de manipulations sur les textes qui inclut la traduction, le remaniement, la réorganisation, la compilation et le florilège, alors ces textes procèdent tous effectivement de cette façon de lire les textes de l'Antiquité. Et pour terminer, donc, je dirais que ces textes ne cherchent jamais finalement à rencontrer une certaine originalité du point de vue de l'invention, pour reprendre les catégories de la rhétorique antique. Ils sont tous dans la disposition et dans la nouvelle disposition. Je voudrais maintenant passer à deux cas particuliers pour essayer de cerner comment ils fonctionnent. Je vais rester un tout petit peu général, mais tout de même vous en montrer deux en particulier. Je vais revenir sur le pseudo Apulée, et puis ensuite je vous parlerai d'un autre pseudo qui est, alors je veux dire un pseudo Alexandre le Grand pour faire vite, et qui présente des caractéristiques très 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 singulières. Les plantes du pseudo-apulé sont globalement celles qui sont bien connues des médecins anciens. Alors, dans le pseudo-apulé, je vous ai dit qu'on trouvait 131 plantes. Pour vous donner une idée, ça représente à peu près 10% du corpus plinien. Dans le pseudo-apulé, vous trouvez les plantes les plus utiles, les plus fréquentes chez les apothicaires. Alors, je retiens par exemple l'armoise, l'absinthe et quelques autres. La différence entre le pseudo-apulé donc, et son modèle antique, si vous admettez avec moi que l'essentiel de la matière vient bien de Pline l'Ancien, tient donc d'une part dans la sélection d'un tout petit nombre de plantes et dans une réorganisation de la matière, et puis aussi dans l'ajout donc, de l'iconographie sur laquelle je vais devoir revenir. En regardant cet herbier, une certaine critique italienne, au fond, disait qu'avec le pseudo-apulé et avec la mise en forme, on perdait l'originalité du texte ancien. Et aussi au fond, le texte d'Apulée serait une sorte de réduction, entendue au sens presque moral du terme, de l'intérêt du texte pinien. Pour tout vous dire, je ne suis pas complètement d'accord. Parce que quand on regarde bien ce pseudo-apulé, il apporte au texte de Pline quelque chose que le texte de Pline n'avait pas et qu'on lui reproche cruellement, c'est une mise en forme systématique. Alors, si vous regardez comment ça marche, celle-ci. Ça ne va pas être d'une clarté totale, mais tout de même. Ce que vous avez ici, donc, c'est des chapitres du pseudo-Apulé. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous avez une illustration. Cette illustration, dans ce cas précis, c'est pour ça que je l'ai retenue, hein, est une belle illustration. Il y a des cas où cette illustration est simplement allusive. Je défie quiconque, y compris un naturaliste chevronné, de reconnaître une plante en regardant les illustrations du pseudo-Apulé. C'est impossible. Au reste, j'ai l'impression que peut-être ça ne servait pas à ça. Je veux dire, que ça serve d'aide-mémoire, au sens où le dessin fait allusion à la plante, c'est tout à fait certain. Que ça serve, je dirais, de clé de détermination, pour employer des mots qui sont volontairement beaucoup trop modernes, c'est clairement pas ça. Donc, parce que le discours naturaliste ne fonctionne pas, et médical, ne fonctionne pas sur ce terrain. Comment procède un chapitre du pseudo-Apulé ? Ben, d'une façon toute simple, vous avez le nom de la plante, une série de noms. Alors, c'est présenté sous une forme extrêmement simple, Ali, Wokant, etc. Puis vous avez un autre nom à côté. Quelquefois, on renvoie à une source qui est toujours impossible à déterminer. On vous dit que c'est, par exemple, en Grèce, on le nomme de cette façon-là. On ne vous dit pas chez quel auteur grec, bien entendu. Et puis c'est quelquefois pas ça du tout. Et puis quelquefois, on a même des origines qui sont absolument indécidables. Mais vous avez quand même une série de noms très précis. Et puis, vous avez ensuite toute une série d'indications thérapeutiques. On vous dit, voilà, pour telle maladie, vous procédez de telle façon, vous donnez telle quantité, etc. Donc, vous voyez, on a deux choses. On a la nomenclature d'un côté et, je dirais, la thérapeutique de l'autre et rien d'autre. Alors, c'est vrai qu'on perd par rapport au texte plinien. On perd, par exemple, tout ce qui fait le charme de l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, c'est-à-dire toutes les petites histoires que raconte Pline l'Ancien pour fonder son discours. Par exemple, pour indiquer les vertus magiques de l'aristoloche ronde, il va vous expliquer que les pêcheurs de Naples, qu'on jette l'aristoloche ronde dans le port de Naples et que les pêcheurs en témoignent que ça suffit à affoler les petits poissons qui se jettent dans les filets. Donc on a tout ce genre de petites histoires qui sont si fréquentes dans l'histoire naturelle et qui rendent la lecture si agréable, disparaissent effectivement de ces textes pseudépigraphiques. Mais, en revanche, on y gagne une spécialisation médicale beaucoup plus grande, puisque, du coup, le texte est directement utilisable, et comme sa forme est systématique, il peut être utile à un apothicaire très régulièrement. Je pense que c'est pour ça qu'au fond, il y en a autant d'exemplaires, autant de témoins à l'époque médiévale. Cet accent mis sur la nomenclature est assez remarquable, parce que, pour fréquenter quand même la littérature naturaliste depuis quelques années, j'ai l'impression que c'est pas toujours le cas, que si le problème du nom se pose toujours, l'accent mis sur la collection des noms est quand même beaucoup plus rare. Finalement, les seuls textes dans lesquels on trouve ça systématiquement, c'est les glossaires, en particulier médicaux. Il y en a quand même un certain nombre. Et il faudrait sans doute croiser ces textes avec la littérature lexicographique, ce que je n'ai pas fait. Un autre intérêt du pseudo-Apulé, et évidemment sur ce terrain-là, il ajoute grandement à ses sources, c'est de ne pas circuler tout seul. C'est-à-dire qu'au fond, ces textes pseudépigraphiques circulent en bloc, associés les uns aux autres. Alors que trouve-t-on avec le pseudo-Apulé ? Ben, on trouve le pseudo-Antonius Musa, autre médecin de l'Antiquité. Qui aurait écrit, en tout cas d'après les manuscrits, un traité sur la bétoine, donc un De bétonica, vétonica et même quelquefois britannica, et là le problème c'est que c'est plus la même plante, qui sert très fréquemment de préface au pseudo-Apulé. Si bien que vous voyez, au fond, ces textes, ils transmettent les textes anciens d'une certaine façon, mais surtout ils se réorganisent ensemble, encore plus cohérents, qui est directement au service du savoir médical du Haut Moyen-Âge et puis du Moyen-Âge classique. Il circule d'ailleurs aussi avec d'autres pseudos, des pseudo-galiens qui ont tous en commun d'être évidemment directement associés à des questions de matière médicale. J'ai dit qu'un dernier élément remarquable, c'était l'illustration. Je voudrais signaler que l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, à ma connaissance, n'est jamais illustrée. Je veux dire, si on trouve des images, bien sûr. On trouve de très belles pages de titres. On trouve des peintures avant le début du texte. On trouve des rubrications très soignées, des initiales ornées. Mais d'illustrations des plantes, des animaux ou des objets cités, jamais. Aucun manuscrit d'histoire naturelle, je crois que je les ai à peu près tous vus, mais aucun ne porte ce type d'illustration. Ce n'est pas tout à fait le cas pour Dioscoride, qui circule avec une illustration associée. Autrement dit, par le pseudo Apulée, on est renvoyé à une autre tradition de texte. Alors, ce n'est pas une tradition textuelle, mais c'est une tradition de corpus de texte qui présente précisément une iconographie technique précise. Alors, dans l'Antiquité, on en connaît pour les plantes au moins un exemple, qui est ce qu'on appelle l'herbier de Crateas, un herbier grec cité par Pline l'Ancien. Cet herbier, à ma connaissance toujours, et sous réserve d'une meilleure information, on n'en a que des traces papyrologiques, en particulier dans les séries de Péteptoulis. Donc vous voyez, le pseudo-Apulée prend sa matière chez Pline, mais finalement, son organisation et sa façon d'être conçue, arrangée, dans d'autres types de littérature plus anciens. Alors, on a beaucoup réfléchi pour savoir quelle était l'origine de l'iconographie du pseudo-Apulée. En général, on dit que ça n'est pas tout à fait l'origine byzantine qu'on aimerait voir. Une des particularités que vous ne voyez pas ici, c'est que dans les pseudo-Apulées, on a des petites scènes de genre tout à fait charmantes, de rhizotomes, de personnages en train de couper des racines dans les marges. Et quelquefois, on a quelques animaux, on a quelques jolis serpents qui circulent en particulier dans les pseudo-Apulées. Le deuxième exemple dont je voulais vous entretenir et qui n'est plus le pseudo-Apulée, c'est ce pseudépigraphe très spécial dont je vais commencer par montrer l'importance en signalant que si on ne voit pas qu'il s'agit de ce texte-là, on ne comprend pas un chapitre de l'encyclopédie de Vincent de Beauvais où il est question des médicaments tirés des vautours. Donc je vais sortir un tout petit peu des plantes par exception. Et Vincent de Beauvais dit, comme le dit Pline l'Ancien, et il dit, voilà, avec le bec du vautour, on soigne telle maladie, avec les plumes du vautour, on soigne telle autre maladie, avec ses pattes, telle autre maladie, avec ses ailes, et même avec sa langue, on soigne telle ou telle maladie. Alors, il y a bien des vautours chez Pline l'Ancien, là-dessus, il n'y a aucun doute. Ils sont au livre 29, chapitre 4, dans l'ancienne numérotation. Ça doit être 71, je crois, dans la numérotation moderne. Mais pas ça. Ça n'est pas dans Pline. C'est quand on cherche un tout petit peu, on s'aperçoit que ce texte est un pseudépigraphe qui se présente la plupart du temps comme une lettre d'Alexandre le Grand adressée au sage Botros et qui a fait l'objet d'une série de travaux extrêmement savants, au terme desquels, pour vous donner juste la conclusion, on apprend que ce texte est un texte latin traduit probablement à date assez haute d'un original grec, probablement originaire d'Afrique du Nord, et qui évoquait effectivement toutes les médications tirées des vautours. Donc c'est bien un original, mais cet original, évidemment, circule de deux façons différentes. Il circule sous forme d'un pseudo, avec une tradition textuelle autonome, copiée dans des manuscrits, où on peut le retrouver souvent sans aucun titre, et quand il a un titre, on nous dit que c'est une lettre d'Alexandre, rien de plus. Mais évidemment, on n'explique pas pourquoi c'est Pline, puisque justement, là, la source n'est pas Pline, et que Vincent de Beauvais l'associe à Pline. Alors, ce n'est pas Vincent de Beauvais qui se trompe, c'est qu'en réalité, ce texte est rentré dans Pline. C'est-à-dire que voilà le cas d'un pseudépigraphe, qui n'était pas Pline l'Ancien du tout, mais que, quand on regarde les manuscrits médiévaux, on retrouve inséré dans le texte de Pline, c'est-à-dire que le texte de Pline s'arrête un moment, le texte pseudépigraphe prend sa place, et on reprend le texte de Pline un tout petit peu plus loin. C'est l'exemple type d'une glose qui, à un moment ou à un autre, est ajoutée dans le corps du texte, avant d'être évidemment sauvagement expurgée, quand un latiniste un tout petit peu plus attentif ou un humaniste soucieux de l'authenticité du texte s'aperçoit que ça ne peut pas être du Pline l'Ancien. Et en comparant les manuscrits, s'aperçoit qu'il n'y a qu'une seule, je dirais, famille qui lui donne cette glose insérée dans le texte. Autrement dit, le pseudépigraphe qui va tellement chercher dans le texte ancien, il arrive même, quand il s'agit d'un texte relativement court, et c'est le cas pour cette lettre, hein, ça représente, une page ou deux, pas plus, peut éventuellement retourner dans un texte ancien dans lequel il s'insère finalement avec un certain bonheur. Alors, il me reste maintenant, et ce sera donc mon troisième point, à essayer de mesurer ce qu'est l'importance de ces textes du point de vue de leur influence et du point de vue de la constitution d'une pensée médicale ultérieure. Et je vais pour cela vous raconter l'histoire, parce que j'ai peur que ce soit vraiment de cet ordre-là, du pseudo-Aristote des Plantis. Pour l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge, la cause est entendue. Le fait d'attribuer à un auteur célèbre un texte qui ne l'est pas et qui n'est pas de lui montre clairement l'intention de donner de l'autorité à cette publication. J'observe d'ailleurs qu'à côté de ces textes pseudo-attribués ou pseudo-adoptés, il existe des centaines d'herbiers ou de traités de matière médicale qui ne sont pas adoptés par un auteur ancien et dont l'audience est objectivement de ce fait bien moindre. Pour mesurer l'importance de ces textes, je voudrais souligner plusieurs points. Le premier, c'est qu'il existe donc, comme je l'ai déjà un petit peu mentionné avec le pseudo-Apulée, des corpus de textes authentiques ou le plus souvent pseudo-épigraphes. C'est le cas pour le pseudo-Apulée, ce serait vrai aussi pour les pseudo-Dioscorides et pour un certain nombre de pseudo-Galiens et Hippocrates couramment associés, et ils forment vraiment des corpus dans les manuscrits médiévaux. Alors qu'on explique ce fait par une tradition textuelle unique et continue, ou qu'on l'explique en montrant qu'il s'agit d'un usage courant de la constitution de corpus, significatif d'un point de vue de l'usage ou de la pensée médicale, ça n'a pas d'importance. La réalité de la transmission de ces textes, qui sont souvent assez peu étudiés, fait clairement apparaître leur importance dès la fin de l'Antiquité et jusqu'à la Renaissance. J'ai montré que un herbarius, par exemple, était toujours, dans un cas sur deux à peu près, un pseudo-Apulée. Pour le pseudo-Antonius Musa, c'est la même chose. Il est très couramment transmis à l'intérieur de corpus. Si je vous montrais maintenant une page d'un herbier de la Renaissance, cette fois-ci en allant jusqu'à Fuchs, hein, jusqu'en 1542, on verrait encore se manifester très clairement l'importance de ces textes pseudépigraphiques, parce que quand on regarde le détail des notices de Fuchs, on s'aperçoit qu'il cite encore Apulée, et quand il dit Apulée, c'est évidemment mon pseudo-Apulée, et il travaille avec un manuscrit. Je veux dire, il y a toujours un manuscrit médiéval dans les mains pour transmettre le texte et ses particularités. Il retient tout de même les caractéristiques du pseudo-Apulée pour des plantes extrêmement courantes et importantes dans la pharmacopée ancienne, comme l'absinthe, la corde, l'armoise, le mouron, le chanvre, et j'en passe des quantités. Alors, Agnès Harber avait beau dire que le pseudo-Apulée a eu moins d'importance que le Dioscoride authentique, sans doute a-t-elle raison, mais il ne faut pas exagérer, car en réalité, quand on rentre dans le détail des sources, c'est souvent ces textes inauthentiques qu'on trouve bien avant le Dioscoride officiel. Si j'étends mon enquête à quelques-uns des grands textes de la Renaissance, le problème est le même jusqu'au XVIIe siècle au moins, et peut-être même jusqu'au XVIIIe, mais de moins en moins, parce que les savants de la première époque moderne constituent régulièrement donc ces bibliothèques dans lesquelles on trouve regroupés tous les textes inauthentiques dont j'ai parlé. J'ai cherché à voir à quel moment ça s'arrêtait. Ça existe encore chez Tournefort, donc là on est à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe. Mais évidemment, plus on avance dans le temps, et quand même moins ils ont d'importance et moins on les signale. Je voudrais maintenant, pour rentrer dans le détail finalement d'une transmission et de la mesure de l'importance d'un texte, vous raconter une histoire de faux, de texte apocryphe plutôt, qui illustre bien l'influence de ces textes pseudépigraphes jusqu'à la Renaissance. Et j'ai choisi donc le De Plantis du pseudo-Aristote. Sans entrer dans le détail de l'histoire du corpus aristotélicien, on peut dire tout de suite qu'on sait très tôt qu'un certain nombre de textes du corpus aristotélicien ne sont pas d'Aristote. Alors, c'est le cas pour des textes comme le De Mundo, les Problemata, donc attribué aujourd'hui à Alexandre d'Aphrodise. Pourtant, Ulysse le revendique toujours quand il évoque la forme des objets naturels, renvoie à Aristote dans un passage qui ne peut être que dans Alexandre d'Aphrodise. Pour le Desplantis, c'est encore plus étonnant, parce que pour tout vous dire, Aristote a bien écrit un Desplantis, et c'est là que le problème commence. Et il a tellement écrit un Desplantis que Diogène Laërce le mentionne, disant qu'il atteste cette vérité. Comme on sait cependant, le corpus aristotélicien qui concernait les plantes a disparu et la botanique aristotélicienne est aujourd'hui connue essentiellement par l'œuvre de Théophraste, élève et successeur d'Aristote. Pourtant, il existe bien, à la Renaissance et au Moyen-Âge, un texte qui circule sous le nom du pseudo-Aristote, Desplantis. Texte aujourd'hui attribué à Nicolas de Damas, et donc il s'agit d'un texte du 1er siècle. Transmis par la voie orientale essentiellement, le texte est connu par des manuscrits arabes, syriaques, hébreux, donc c'est vous dire que c'est une tradition orientale très importante, et il revient en Occident au XIIe siècle, par l'Espagne, dans l'entourage de Gérard de Crémone, où il fait l'objet d'une traduction en latin, et c'est cette traduction donc du Desplantis qui circule pendant toute la période médiévale. Donc on ne sait déjà plus très bien de quoi il s'agit. On compte une centaine de manuscrits, ce qui n'est pas peu, rien que pour la version latine du texte. Pour ce texte, je renvoie donc à une synthèse qui a été récemment publiée par Henri Hugonard Roche et qui est absolument excellente. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la tradition humaniste. Dès la fin du XIVe siècle, je trouve des manuscrits du Desplantis en grec, ce qui est quand même assez étonnant, puisque je viens de vous dire qu'il n'avait circulé que dans les langues orientale et en latin à partir du XIIe siècle. C'est donc rigoureusement impossible, en réalité. Il faut donc conclure que quelque part en Europe, on a opéré une traduction du latin médiéval vers le grec, ce qu'on appelle techniquement une rétroversion, sans doute parce qu'il semblait improbable qu'un texte d'Aristote ne fût pas transmis en grec. On peut aussi rapprocher ça des traductions qui ont été opérées au XVe siècle, vers le grec, de textes de Cicéron par Théodore Gaza, parce que là, il s'agissait d'apprendre le latin aux Grecs de la diaspora. La question posée, s'agissant de l'authenticité du texte, est de savoir si oui ou non ce texte est repéré comme pseudépigraphe, et si oui ou non il fait l'objet d'un traitement différent, parce que pseudépigraphe dans le corpus aristotélicien. Et donc là, je vais me pencher sur la tradition imprimée du texte, et peut-être que vous allez trouver que mon exposé devient presque drôle à ce moment-là. La première édition du corpus grec d'Aristote, c'est pas ça qui est drôle, date de l'extrême fin du XVe siècle et elle sort des presses d'un des plus grands imprimeurs de la Renaissance, je veux parler d'Aldemanus, Alde l'Ancien, qui avait accès à des collections de manuscrits dans lesquels il y avait Aristote, il y avait même de l'Aristote grec. Il avait bien trouvé un Desplantis en grec, il le connaissait puisque c'était dans les collections du cardinal Bessarion. Et néanmoins, quand il publie le texte, il ne croit pas à l'authenticité du Desplantis grec et donc il ne le publie pas. Il publie le corpus aristotélicien sans le Desplantis, ce qui est un très bon mouvement. Quelques années plus tard, Erasme, le grand Erasme, qui connaît bien de l'ancien, qui tient son savoir en haute estime, donne une nouvelle édition du corpus aristotélicien et comme son prédécesseur, il laisse tomber le Desplantis parce que ce Desplantis lui paraît également apocryphe. Et comme il brosse un tableau général dans l'introduction du corpus aristotélicien et de sa transmission, il range Desplantis du côté des textes perdus en grec. Jusque-là, tout est logique. Là où ça commence à se compliquer, c'est qu'en 1539, à Bâle, on s'avise que le Desplantis grec, qu'on connaît toujours par les manuscrits qui sont disponibles, n'a pas encore fait l'objet d'une édition imprimée. Et on procède donc à une édition du texte grec, joint à un autre texte grec, qui est celui des Géoponica. Et la préface de Simon Grineus identifie bien le texte comme une traduction récente en disant c'est bien ou Gaza, ou Mouzouros, ou Lascaris, ou Maxime Planude qui est responsable de cette traduction vers le grec. Le caractère donc pseudépigraphique du texte a été très correctement repéré. Mais comme il s'agit tout de même d'un texte du corpus aristotélicien, c'est aussi un bon coup de librairie. Et comme c'est un bon coup de librairie, cette première édition est suivie d'une autre la même année. Cette fois-ci, c'est Froben, l'ami d'Erasme, donc en 1539, qui donne une édition du texte aristotélicien. Et comme on vient de découvrir le texte grec du Desplantis, il l'ajoute à la fin de l'édition d'Erasme, lequel avait publié en 1531 le corpus aristotélicien sans le Desplantis, parce que Erasme pensait que ce texte était pseudépigraphe. Sauf qu'en 1539, le problème, c'est qu'Erasme est mort. Il est mort en 1536. et que donc Froben rajoute ça. Mais il ne sait pas où le mettre, parce qu'un corpus, ça s'organise. On ne trouve jamais Antonius Musa après le pseudo Apulée, parce que Antonius Musa sert de préface au pseudo Apulée. Le corpus aristotélicien connaît une organisation extrêmement précise. Le Desplantis ne trouve pas sa place, évidemment, dans le corpus aristotélicien tel qu'Erasme l'a vu, donc on le met à la fin du tome 2. Si vous voulez, c'est une sorte de strapontin pour le Desplantis. Et dans la marge, une petite note rapide pour dire que depuis la mort d'Erasme, on a redécouvert le texte. Alors, c'est en fin de volume, nous voilà donc en 1539, en 1550-1551, on recommence, on réédite le même texte et le Desplantis occupe toujours la place de Strapontin à la fin du tome 2. On pourra considérer que finalement la Renaissance avait bien travaillé en remettant le texte à disposition, mais je vous rappelle que la Renaissance adore les traductions et que, conformément au principe que Cassiodore exprimait déjà, tient beaucoup à mettre à la disposition de tout un chacun des textes en traduction latine, ne pouvant compter déjà à l'époque sur une bonne connaissance généralisée des textes grecs. Il paraît qu'il y avait des gens qui ne savaient pas lire le grec même à la Renaissance. Il faut donc imaginer que, confronté à un nouveau texte aristotélicien, les hommes de la Renaissance n'ont eu de cesse que de le traduire en latin. Donc, ils vont chercher ce texte qui était déjà une traduction, je vous rappelle, vers le grec d'une vieille traduction latine, etc., pour en redonner une nouvelle traduction latine. Et donc, en 1542, on a une première traduction latine du Desplantis en latin, fondée sur le texte grec de 1539, lequel était une édition à partir de manuscrits qui avait rétro-converti le texte vers le grec. Comme ça ne suffit pas, il est suivi d'une autre encore l'année suivante, 1543, toujours sur le texte de 1539, toujours vers le latin, avec des traducteurs qui ont travaillé indépendamment l'un de l'autre. Le deuxième traducteur, c'est Andrés de Laguna, et si je le précise, c'est pas pour lui faire honte de ne pas avoir vu le caractère quand même un tout petit peu osé de sa démarche, mais simplement pour dire qu'on ne peut pas soupçonner Andrés de Laguna, qui est un des meilleurs hellénistes de son époque, de ne pas avoir vu que ce texte était pseudépigraphe. Il le sait forcément, mais il explique quand même dans la préface qu'il est de son devoir de médecin et d'helléniste de rendre au public le texte latin à partir du texte grec. Que conclure de cette histoire à épisode ? Que là où les textes authentiques ont quelquefois par exception, mais pas toujours, une tradition textuelle simple, les pseudépigraphes permettent en quelque sorte de tester les limites de la conception même de ces traditions textuelles et de cette transmission des savoirs et des textes. Au fond, les pseudos permettent de voir ce qu'on peut faire de pire, je dirais, dans les traditions textuelles, et en même temps mettre l'accent sur ce qu'est la réalité des savoirs qu'ils transmettent, parce qu'ils ont fait déjà un choix, une réduction par rapport aux grands textes de l'Antiquité. Et au fond, si j'avais une conclusion à apporter à ce très bref exposé, c'est d'essayer de les réhabiliter, parce que finalement, ces petits textes inauthentiques sur lesquels on travaille finalement assez peu, pour lesquels on ne dispose pas toujours des éditions critiques qu'il faudrait, et encore moins des éditions archéologiques qui permettent de comprendre leur histoire, ces textes-là, j'espère vous avoir convaincu que ce sont ceux dont on se sert couramment dans l'Antiquité et au Moyen-Âge pour transmettre un savoir plus facilement accessible aux spécialistes et aux techniciens que sont ici les médecins, mais ailleurs d'autres spécialistes. Je vous remercie.
Merci Marie-Elisabeth, comme d'habitude. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ?
Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé. J'ai plusieurs petites questions. Une générale, mais vous pourrez répondre peut-être plus tard. Finalement, à qui est-ce qu'on a affaire ? Est-ce qu'on a affaire à des médecins ou est-ce qu'on a affaire à des doxographes ? Plutôt à la fin, à la fin de l'Antiquité. À l'époque des humanistes, c'est clair qu'on est dans des cabinets de bibliothèques.
Oui, oui. Quand on peut les saisir, c'est extrêmement variable selon les textes. Je dirais plutôt pour l'Antiquité, j'irais assez dans le sens des doxographes, effectivement, c'est possible. Pour les périodes ultérieures, en ce qui concerne les pseudo-massers, pseudo-bèdes, etc., clairement, c'est des médecins.
Et ça leur sert réellement dans leur pratique ?
Ah, pour le pseudo-masser, c'est évident. C'est évident, au point que quand j'ai commencé à faire une liste des manuscrits pour voir un peu où on était, je suis partie avec 20 manuscrits dans le fichier des textes médiévaux de l'IRHT. Et j'ai cherché, par les incipitaires essentiellement, je suis maintenant entre 90 et 100. Et quand j'ai essayé de faire un stéma, même si par conviction, je ne suis pas sûre que ça marche à tous les coups, la méthode stématique, je n'arrive pas à reconstituer des familles textuelles qui vont bien, qui se déduisent logiquement les unes des autres. Le stéma, c'est l'arbre généalogique des manuscrits. Et en fait, ça fonctionne pas très bien parce que manifestement là, il y a eu trop de disparitions. Et s'il y a eu trop de disparitions, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de copies. Et que, imaginez qu'on essaye de faire un arbre généalogique des manuscrits à partir des polis qui sont distribués dans les universités. C'est rigoureusement de même nature. On a, pour l'imprimer, par exemple, un des problèmes, c'est qu'on a plein de sans-lieu-ni-date. Donc, comment faire pour déterminer si un sans-lieu-ni-date est le même qu'un autre sans-lieu-ni-date? C'est extrêmement compliqué, surtout quand on ne peut pas les emporter avec soi pour les comparer. Et ces textes sont manifestement très fréquents, très très fréquents. Antonius Musa dépend du pseudo Apulé, très clairement. Je veux dire que sans le pseudo Apulé, il y a quelques manuscrits qui le donnent séparément, mais c'est plutôt assez rare. C'est souvent une préface du pseudo Apulé. Pour le traité des Venins, il est de pseudo Dioscoride, il est systématiquement associé au Dioscoride grec ou latin, mais non alphabétique.
Deux dernières. Oui. Ça pose la question si effectivement on a du matériel comme ça d'herboristerie dans le cas d'aujourd'hui qui se transmet aussi longtemps.
Oui.
Bon, sans doute réactualisé par la pratique.
Sans doute.
Peut se poser, même pour les plus anciens textes, la date des observations. On a toujours l'impression, même chez Dioscoride, le vrai, à quand remontent toutes ces collections, c'est un petit peu le problème. Et plus égoïstement, parce que moi j'avais eu affaire à ce texte, est-ce que vous avez des infos fraîches sur les aporistas, justement?
Non, sur les aporistas, non, j'ai pas d'infos récentes, parce que j'ai pas travaillé sur les aporistas. Mais c'est effectivement un texte très très intéressant. Pour l'Antiquité, quand même, on a des traces. Alors, dans le matériel papyrologique qu'on ne va pas regarder assez souvent, où on a quand même des corpus de plantes médicinales. Et puis, Pline l'Ancien, quand même, donne des listes d'auteurs et de sources, mais c'est évidemment extrêmement difficile à interpréter. Et par ailleurs, je ne sais pas quel est votre point de vue sur le sujet, mais. Liste de Pline, encyclopédiste, qui est quelqu'un qui fait un travail en se fondant sur des fiches, sur des textes, même quand il y a des observations, je ne crois pas un instant, comme l'ont écrit certains, que l'information de Pline l'Ancien dépend de des entretiens qu'il aurait eus avec tel ou tel dans la réalité. Je veux dire, manifestement, c'est un homme de cabinet. Rien ne dit que ça fonctionne de la même façon pour Dioscoride, qu'il ne cite pas et qui ne le cite pas et qui est un homme de terrain, c'est un médecin, hein, c'est un médecin grec qui suit l'armée romaine. Donc on est avec un contexte très très différent. Donc c'est très compliqué à démêler. J'ai envie de dire qu'à la fin de l'Antiquité et pendant le Haut Moyen-Âge, on a quand même, comme on a ces sources-là, on arrive à faire des hypothèses presque un peu plus facilement. Mais pour remonter en deçà de Pline et Dioscoride.
Dans la mesure où ces textes ont été édités, peut-on les consulter facilement? Lesquels de ces textes sont accessibles ou sur Internet éventuellement?
Alors, pour la Medicina Plini, on ne la trouve pas. Ah oui. On ne les trouve pas tous. Le pseudo Apulé, si, parce que c'est un texte tellement important qu'il a fait l'objet d'éditions et de facsimilés, donc là, c'est facile. Le pseudo Antonius Musa, par exemple, non. Sauf dans des articles publiés dans des revues évidemment spécialisées, Pour le pseudo-Dioscoride sur les herbes utilisées en gynécologie, il y a une édition qui date de 1896, me semble-t-il, et d'autres éditions dans des revues américaines, parce que c'est tout l'ensemble des naturalistes, des historiens de la botanique américaine qui ont beaucoup travaillé sur des gens comme Jerry Stannard, comme John Riddle, par exemple, ont beaucoup travaillé sur ces questions. Autrement, vous ne pouvez pas aller dans une librairie et demander le pseudo-Dioscoride, vous ne le trouverez pas. Et ça n'a pas fait l'objet d'une édition séparée très très tardivement. Ça a circulé sous forme de manuscrits essentiellement. Alors Dioscoride, oui, c'est l'édition Wellman qui fait encore autorité, qui doit dater du début du XXe siècle, je crois. Alors on trouve les Dioscorides anciens, enfin, je veux dire de la Renaissance, qui ont fait l'objet de rééditions là pour le coup, ou de facsimilés, je pense par exemple en Espagne il y a eu des choses qui ont été faites, mais c'est vrai qu'il manque une bonne édition de Dioscoride. J'ai vu une traduction récemment, j'ai vu passer une traduction, mais qui ne dit rien sur la tradition textuelle, enfin c'est un peu un problème.
Oui. On l'a pas fait aux belles lettres, je veux dire, on n'a pas fait ça pour Dioscoride, et c'est un peu fâcheux quand même, parce que tout le monde n'a pas le temps d'aller fouiller oui. dans les.
Oui.
Et avec une annotation minimum.
Je suis complètement d'accord.
Non. Pas d'énergie, je pense, parce qu'effectivement, là pour Dioscoride, il y aurait des tonnes de manuscrits à retourner, sans doute. Mais
le problème de Dioscoride, c'est savoir lequel on publie, parce que il faut choisir entre le latin et le grec. Et si on choisit le grec non alphabétique, qui est le Dioscoride, je dirais, originel, il faut le faire, mais je ne sais pas, peut-être qu'il faut lancer des étudiants en thèse sur le sujet. C'est pas, ouais. Mais c'est un gros travail, hein, parce que les manuscrits sont extrêmement difficiles à trouver, et je crois qu'il y en a beaucoup, et c'est compliqué. C'est compliqué. C'est une des traditions textuelles les plus compliquées qui soient, je crois, du Dioscoride. Mais il n'y a rien. Mais c'est le cas pour plein d'autres choses. Moi, je travaillais sur le pseudo-Masser pour les racheter. Le pseudo-Masser, l'édition, la dernière édition, vraie édition, date de 1842. Bon. Elle a fait l'objet d'une réimpression, je dirais, qui n'est pas tout à fait une réédition en 2000, par les soins d'une équipe allemande, qui travaille très bien sur le Masser en langue vernaculaire. Et donc, ils ont redonné à la publication au jour, je dirais, le texte de Choulan de 1842. Avec la paracritique, ils ont juste oublié de mettre la liste des manuscrits utilisés en tête, si bien qu'on a des foules d'abréviations dans la paracritique, absolument non interprétables, puisque si on n'a pas l'édition Choulan à côté. Et comme Choulan le dit lui-même dans l'introduction qu'il donne à son édition, qu'il n'a pas cherché à faire une édition critique, il a fait une édition de Masser avec les 5-6 manuscrits qu'il avait sous la main, et les 5-6 éditions imprimées qu'il avait sous la main à Dresde. Donc ça tombe bien, il y en a un très bon à Dresde. Mais ça ne suffit pas, ce n'est pas une édition critique. Et tous les autres, non. Et comme je viens de dire que la tradition textuelle n'est pas très facilement repérable parce qu'il y a trop de manuscrits et c'est trop fragmentaire, c'est trop... Oui, il y a trop de trous, si vous voulez, dans l'arbre généalogique. Alors, on est devant une édition qui n'est même pas une édition critique, qui d'ailleurs ne se revendiquait pas comme telle, hein, et qui n'est plus utilisable. Donc oui, bien sûr, tous ces textes demandent des travaux de fond. Ça commence un peu quand même, parce que dans les textes un peu mineurs en matière de plantes, il y a quand même eu des travaux sur Gargilus Martialis, enfin, les travaux de Brigitte Mère, par exemple. Donc on commence à s'y intéresser un petit peu, mais ça reste encore une terre à défricher, oui. Oui, ça c'est clair.
C'est une question d'analphabète que je vais vous poser. Est-ce qu'à travers tous ces textes-là, on arrive à faire une petite idée de la transmission du savoir médical, enfin concrètement, entre la fin de l'Antiquité et le début des universités médiévales, quand il n'y avait pas apparemment de structure
Alors, les textes dont j'ai parlé sont des textes dans lesquels on a des noms de plantes associés à des maladies. C'est quand même assez succinct, notamment du point de vue, il n'y a pas de posologie, il n'y a pas beaucoup de préparation, donc ça reste quand même assez limité. J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que manifestement, ça a permis de fixer un savoir sur la thérapeutique. avec des plantes qui étaient, je dirais, ordinaires, qu'on pouvait trouver. Et parce que ça ne permet pas, même pour le pseudo-apulé, d'aller jusqu'au bout de la question de la détermination des plantes, précisément, parce que juste, on n'est pas dans de la botanique, quoi. Enfin, ça n'existe pas à cette époque-là. Et donc, on ne peut pas... On ne peut pas compter là-dessus pour faire avancer un savoir, si vous voulez, technique sur quelle plante, quelle variété, quelle espèce, etc. Par ailleurs, je reste persuadée qu'il y a une différence quand même extrêmement nette entre regarder les plantes quand on est un médecin de la fin de l'Antiquité ou du Moyen-Âge et regarder les plantes quand on est un naturaliste de la Renaissance, au sens où, quand je suis un médecin du Moyen-Âge, j'ai besoin, quand je vais dans le jardin, de pouvoir repérer la plante qui est plantée, qui est cultivée, pour la faire intervenir dans une préparation. Je n'ai pas à la reconnaître, en réalité. Alors que le naturaliste, il fait le contraire. Il a des plantes, et il cherche à les reconnaître et à mettre un nom dessus. Donc, si vous voulez, ça suffit pour fixer ce savoir pratique des médecins en matière médicale. Ça ne fait pas avancer les choses du point de vue de l'analyse fine du matériel végétal dont on se sert par ailleurs pour préparer des médicaments. Au point que, et ça il faut attendre vraiment, vraiment le 15e siècle, il faut attendre les grands travaux italiens sur les médecins de l'Antiquité pour voir apparaître ce type de débat. Mais alors là, ça devient très vite des débats brûlants. Enfin, l'exemple que j'aime le mieux, c'est celui de la conite, dont on sait que, quand même, c'est une plante un peu dangereuse. Il se trouve que Avicenne dit qu'il faut la manger. Or, c'est un médicament de ceux que j'appelle une fois, parce que effectivement, après, on peut plus récidiver, on est mort. Donc, c'est assez simple. Et on trouve de la conite dans les glossaires médiévaux, dans une quantité de textes, mais il faut vraiment attendre le 15e siècle, Policien, les gens de Ferrare, les médecins de Ferrare, pour qu'on commence à se poser la question de savoir si c'est bien de ça qu'on parle. Voilà. Et si la conite que j'ai dans mon jardin, c'est bien la conite dont on parle dans les textes. Vous voyez, la réflexion qui fait avancer ensuite, d'un même pas, la description du monde et l'avancée de la pharmacopée, c'est vraiment la Renaissance. C'est vraiment, vraiment le 15e siècle italien. Le point de départ. Puis après, ça gagne toute l'Europe pour aboutir à la naissance, je dirais, à la séparation de la pharmacie, de la botanique, de la médecine, qui deviennent des spécialités séparées. Mais j'ai envie de dire qu'avant, depuis la fin de l'Antiquité jusque pendant tout le Moyen-Âge, la botanique n'existe pas, c'est pas la peine de la chercher. Il y a un discours sur les plantes qui n'est pas botanique. Et la pharmacologie se répartit entre le discours sur les simples, le discours sur les médicaments composés qui relèvent de traditions, je dirais, de corpus de textes assez différents, finalement.
Quand on travaille à lire, acheter, qu'on doit numériser des textes,
oui.
Parler un peu de ton travail, Marie-Elisabeth, qui est... phénoménal. Comment les choix s'opèrent ?
Quand on numérise les textes ?
Oui, quand on fait le choix de numérisation.
Alors, on peut pas. Moi, je suis pas capable, par exemple, de faire un choix sur Alexandre de Trales, dont je ne connais pas la tradition textuelle suffisamment bien. Je peux le faire sur des textes pour lesquels j'ai regardé les manuscrits, j'ai regardé les éditions imprimées, et je suis capable de dire que tel manuscrit ou telle édition imprimée représente telle famille de textes, et que si je veux donner une image familiale, je dirais, cohérente, De la tradition d'un auteur, alors il faut prendre tel et tel exemple, témoin, etc. Donc c'est ce qu'on fait avec la BUM depuis des années, c'est ce qu'on fait avec BVH depuis des années aussi, de façon à pouvoir donner une image qui soit, je dirais, sensée et cohérente. Cela dit, oui, voilà. Oui, oui, oui. Oui, c'est-à-dire que c'est pas la peine de donner 25 fois, 25 éditions différentes qui en fait reprennent toujours la même tradition textuelle. En revanche, on a besoin d'avoir une sorte d'échantillonnage suffisant. Donc en fait, oui, c'est ça, c'est un échantillonnage qui ne peut se faire qu'après avoir regardé comment tout ça fonctionne. Et il y a des cas où c'est très difficile. Donc ça va très doucement. pour... Je ne sais pas si c'est phénoménal, mais ça va très doucement. Parce que ce n'est pas, c'est pas très simple à gérer, quoi. Voilà. Je sais que pour BVH, Toshi l'a fait pour les Bibles, ce qui était déjà un très très gros travail. Moi, je l'ai fait pour les éditions d'Aristote parce que j'avais travaillé dessus et que donc je les connaissais assez bien. Pour les manuscrits, si vous voulez, il faut que je reprenne mon élan pour replonger dans les traditions textuelles. Donc, pour aller vite, tout à l'heure, je disais sur un mode mezzo voce en forme de provocation que j'avais toujours un problème avec la méthode systématique. Ce que je sais, ce que je vois, mais parce que je ne fais pas d'édition critique, je fais éventuellement de l'édition archéologique. Je fais de l'histoire des textes, mais mon but n'est pas d'arriver à une édition critique. Donc, je me moque de savoir ce qu'est la bonne leçon. Ce qui m'intéresse, c'est les leçons qui sont significatives d'une histoire de la transmission. Et c'est très différent. C'est très différent. Du coup, le programme que je dirige à l'IRHT, qui étudie le passage du manuscrit à l'imprimé, ne donne jamais une édition de texte critique. Je veux dire par là que pour Macer Floridus, et au risque de faire hurler la communauté des latinistes à laquelle j'appartiens pourtant, on va donner une édition archéologique, c'est-à-dire que je donne l'édition Princeps, parce que celle-là, je suis sûre qu'elle repose sur des manuscrits, et que donc, pas le choix. Donc celle-là, elle m'intéresse parce qu'elle est clairement un point nodal dans l'histoire du texte. Mais ça ne donnera pas plus une édition critique de Macer Floridus, que j'appelle aussi de mes voeux, mais ce n'est pas moi qui vais la faire, en tout cas pas dans ce cadre-là, parce que c'est deux choses très très différentes. Donc oui, on fait des choix en plongeant dans les manuscrits, en faisant des collations, en comparant des variantes, enfin, tout ce travail que tous les philologues connaissent par cœur et qui prend un temps infini. Ouais. Pour Pline, par exemple, on arrive très facilement à mettre en évidence des strates. C'est-à-dire que, comment dire, il y a des variantes, des leçons, si vous voulez, des états du texte qui ne sont pas possibles avant une date et qui ne sont plus possibles après une autre date. C'est-à-dire qu'on arrive à voir ce genre de stratigraphie, c'est exactement comme en archéologie. Par exemple, tout à l'heure j'ai parlé de la glose sur les vautours, elle n'est pas possible avant le Xe siècle, elle n'est plus possible à partir du XIVe. Voilà. Donc je sais que c'est dans cet espace-là. Et puis si je me donne un peu de mal, je vais m'arriver à le situer géographiquement, parce que mes manuscrits, je suis quand même capable de dire s'ils sont plutôt originaires du nord-ouest de la France, ou s'ils sont italiens, ou s'ils sont... anglo-saxon, et en croisant toutes les informations, je vais pouvoir dire voilà, tel ensemble de variantes, de préférence monstrueuse, parce que c'est plus facile à mettre en évidence, elle c'est possible dans l'entourage de l'abbaye de Corbie, par exemple, jusqu'au XIIIe siècle, et plus après. Parce qu'après, on dispose d'autres choses qui permettent de faire avancer la tradition textuelle, et donc un certain nombre de ces erreurs sont définitivement corrigées. Voilà, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est les strates. Mais ça ne donne pas une édition critique, enfin. C'est tout à fait un travail différent.
Donc, il faut aller voir le site de la BIUM. Moi, j'appelle BIUM, mais que toi, tu n'appelles pas comme ça.
Si, si, je dis ça aussi. J'ai juste essayé d'articuler, donc ça donnait BIUM, mais c'est BIUM. Tout. C'est pas,
c'était donc, juste la Bibliothèque interuniversitaire de médecine, hein, qui est un don auquel tu as participé.
Oui, oui. Alors, pour les textes médicaux, on a aussi une autre bibliothèque numérique extrêmement intéressante, qui est la bibliothèque Dioscoride, donc, qui est une bibliothèque espagnole de l'Université Complutense de Madrid. Vous allez trouver si vous cherchez Biblioteca Digital et ensuite Madrid et Dioscorides. Et là, ils ont eu le bon goût de numériser assez systématiquement des tas d'ouvrages anciens. Alors, pas de manuscrits, parce que pour les manuscrits, ça commence seulement, en fait, les bibliothèques numériques de manuscrits, pour cette excellente raison que c'est beaucoup plus difficile, parce qu'il faut se rentrer dans le détail des résolutions beaucoup plus grandes pour que les manuscrits soient lisibles à l'écran. Et forcément, si on a des résolutions beaucoup plus hautes, ça suppose que le matériel suive. Parce que si on met des images qui pèsent toutes 50 mégaoctets et que vous essayez de vous connecter avec un brave petit modem téléphonique branché sur la ligne, pas en haut débit, eh bien, vous avez le temps de dîner entre chaque image. Enfin, ou d'aller vous promener, je ne sais pas ce que vous voulez, mais c'est pas possible. Donc il a fallu que les matériels permettent aussi ce genre d'image. Et si vous regardez par exemple sur les grosses banques de données d'images de manuscrits, Liber Floridus, Enluminure, etc., qui sont d'excellentes, je dis ça parce que c'est aussi mon laboratoire qui est un peu responsable, pour lire un feuillet entier, souvent c'est des petits morceaux, donc on peut faire quelque chose de très bien sur une lettre historiée qui prend un tout petit morceau de page. Donc, on n'a pas besoin de numériser toute la page en très haute résolution. Mais en revanche, il y a des cas où on a pris toute la page et vous verrez, c'est pas lisible. Il faudrait juste en dessous de la lisibilité, parce que l'image est très nette, mais le texte, il en faut davantage encore pour qu'il soit utilisable. Donc ça commence seulement. On va en mettre dans BVH, on fait des manuscrits maintenant. Parce que Marie-Luce de Monet est d'accord pour ouvrir une section manuscrite. Il se trouve qu'on a l'accord du propriétaire d'un manuscrit très important, Guillaume Budet, qui est en Suisse, pour mettre en ligne ce document qui fait quand même 10-12 000 pages, quelque chose comme ça. Donc ça permet de tester grandeur nature tout de suite si le serveur se met à genoux tout de suite ou s'il accepte de gérer autant d'images très, très gourmandes en place mémoire, bien sûr.
Et Gallien, il y a eu des éditions critiques de Gallien.
Dans Gallica,
oui.
Oui, dans Gallica, bien sûr, beaucoup. Pour Pline, alors Gallica, leur problème au départ, c'était de faire du nombre et d'occuper le terrain. Et c'était une excellente décision politique, ils ont eu raison. Ça permet aujourd'hui, quand on voit arriver Google Book, de dire, attendez, ça on sait faire depuis très longtemps et on en a plus que vous, et ils sont dans l'ensemble, même s'il y a des numérisations qui sont un peu contestables parce que pas de qualité suffisante, on en a quand même beaucoup déjà. Donc vous êtes bien gentils, mais vous êtes des imitateurs. En gros, c'est ça le discours. Maintenant, Gallica, du fait de l'objectif du nombre, n'a pas mis l'accent sur l'expertise sur les textes, ni même sur la qualité de la numérisation. Ça, c'est tout à fait autre chose. Ils y reviennent maintenant par le biais des pôles associés où régulièrement, moi, je reçois un message en me disant « Est-ce que vous avez des propositions de numérisation pour Gallica ?» Donc oui, ça va se faire, mais c'est très lent parce qu'il faut revenir sur un corpus énorme. Mais encore une fois, politiquement, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Ils ont eu raison. La BUM, c'est une petite bibliothèque numérique. Alors, c'est pas petit, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de textes. Et puis, ils sont très réactifs parce que c'est une petite unité. Et que, du coup, moi, récemment, j'avais oublié, quand j'ai fait l'article Pline, de demander la numérisation d'un commentaire très important de la Renaissance, j'ai envoyé un message, ça a été fait dans les 15 jours. Donc c'est vrai que c'est extrêmement réactif. Le problème, c'est que c'est aussi très spécialisé. Donc à la BUM, vous ne trouvez que des textes médicaux. Un peu des flores, parce que on est un certain nombre à avoir insisté, mais ce ne sont que des textes vraiment centrés sur la médecine. Alors que Gallica, non. Et puis à la BUM, on peut pas télécharger les textes. Oui. Alors pour la recherche plein texte, ça va venir, mais c'est compliqué parce que on peut pas passer un OCR sur des textes anciens, ça marche pas. Donc il faut développer des logiciels extrêmement spécialisés. C'est ce qu'on est en train de faire. Hein. C'est ce que fait BVH. On travaille avec des informaticiens qui sont, je dirais, plutôt de très très haut niveau. Il faut vraiment concevoir les choses de façon très différente pour avoir une application nouvelle. Ça commence à se mettre en place, c'est extrêmement gourmand, ça va pas très vite. Donc quand le logiciel aura mieux progressé, on pourra mettre en fait sous l'image du mot texte qui sera pas parfait au départ, mais qui permettra de faire de la recherche en mot texte. Et vous, ce que vous verrez apparaître, c'est l'image avec votre occurrence surlignée, ce qui suffit dans un premier temps. D'abord parce que moi, je ne veux pas qu'on me cache l'image originelle. Enfin, c'est quoi ça quand on fait l'histoire des textes? On vous cacherait le livre ou le manuscrit pour vous donner juste la transcription? C'est pas sérieux. C'est pas...
Oui, il y a des grosses machines qui le font à la volée.
Mais pas sur les textes anciens.
C'est-à-dire
pas sur l'imprimé. Ça marche jusqu'au 19e siècle. Et ça commence à plus très bien marcher à partir du 19e.
Ouais, surtout si vous êtes sur avec des ligatures pas possibles, oui. etc. Oui, ça ne marche pas. Mais mais quand même, moi je sais que ça permettrait d'éviter de faire le travail qu'a fait Gallica, qui était un petit peu inutile, c'est d'avoir saisi à la main les tables des matières de ses ouvrages.
Oui.
Alors qu'en fait, s'ils avaient d'emblée fait une politique de plein texte, on arriverait à attraper au moins les tables des matières.
Oui.
Effectivement, il y a du déchet dans l'OCR, mais ça permet déjà d'avancer.
Oui.
Et c'est l'énorme supériorité de Google Books, c'est d'avoir fait ça tout de suite, d'avoir pris de l'OCR.
Oui, mais si vous regardez bien, ça ne marche pas pour les textes antérieurs au 18e.
Non, ça ne marche pas toujours très
bien. Pour les textes antérieurs au 18e, il n'y a qu'un truc qui fonctionne un peu, c'est une des adaptations de FineReader. Et il y a un logiciel français qui est développé par une société toulouse qui fonctionne à peu près, mais qui doit apprendre. Donc ça veut dire qu'il faut éduquer le logiciel d'abord, et le logiciel n'apprend pas, en fait, du vocabulaire, il apprend des cases. Donc il faut lui apprendre la case de Jean de Tourne, la case d'Al de l'Ancien, etc. Alors après, il comprend tout Al de l'Ancien. Donc c'est rentabilisable sur plusieurs numérisations, ce que je veux dire. Mais c'est très très long, et il a besoin... Alors, l'avantage du logiciel de BIT Diffusion sur FineReader, c'est qu'à ma connaissance, il reconnaît par exemple le grec avec des ligatures et des accents partout. Si on lui dit, voilà, ce petit machin qui tourne, c'est la finale os, on lui dit une fois et il a compris. Vous voyez, c'est pour dans les 4-5 ans qui viennent, ça va se mettre en place. Mais jusque-là, c'était techniquement pas au point. Et ça ne marchera pas forcément pour les manuscrits. Une chose après l'autre, oui, je crois que là, c'est des outils nouveaux, il faut aussi le temps pour qu'ils se mettent en place. Voilà.
Merci beaucoup, bonsoir à tous. Merci Marie-Elisabeth. À une prochaine fois.